Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Magica, de Little Big Planet 2, Monsieur Fall de TrekTrak.net et sa chronique jeu de société, la minute culturelle et les trois petits modes de StarCraft 2 qui viennent d'arriver et qui font des dérivés du jeu de stratégie de l'été dernier, de Blizzard, bien sûr. Enfin bon, bref, on va pas non plus s'éterniser sur ce que c'est StarCraft 2, faut pas déconner. Et j'accueille tout de suite deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap de Sens Critique. Bonjour. Bonjour Clément.
Bonjour.
Et Joël Métro de 20 minutes. Bonjour Joël.
Bonjour.
Donc Patrick, encore une fois, s'est excusé, hein, mais il va revenir.
C'était les points de la mine culturelle que j'ai mis la semaine dernière. Ça l'a un peu traumatisé.
Il révise pour revenir encore plus en forme que jamais. On commence avec toi Clément sur un peu l'annonce hardware de la semaine dernière.
Clairement, bon, ça fait, c'était juste après notre enregistrement. En fait, il y a eu l'annonce de la prochaine PlayStation portable, la prochaine PSP. On va aller vite dessus parce que beaucoup ont déjà vu les données, mais en gros, donc c'est pas, alors ce qui est bizarre, c'est qu'elle s'appelle pas la PlayStation portable 2, pas
pour
la
PSP l'instant.
Pour l'instant, elle a encore un nom de code NGP. Je crois que c'est Next Gaming
Next Generation Portable.
Ouais.
Voilà. Nom de code, enfin bizarre. Hein,
nom de code, c'est étrange. Ouais. Voilà, avoir.
Ça sent la PSP 2 quand même. Enfin, ouais. Ça serait bizarre.
Clairement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans la console. C'est déjà qu'elle est extrêmement puissante.
Ouais.
On parle vraiment d'une console qui est quasiment les jeux PlayStation 3. Il y a même des passerelles qui seront possibles entre les deux d'après les premiers échos, les premiers développeurs.
En tout cas, pour pas mal de jeux PSN.
Attention, ouais. Même le développeur, je crois que c'était de Metal Gear, mais je vais hésiter d'un moment à m'avancer. Enfin, il y avait des développeurs assez importants qui ont dit que ça serait très facile de porter un jeu PlayStation 3 sur PSP 2. Donc,
ouais.
L'écran est plus petit, etc. Évidemment, ouais. Mais il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de puissance avec un processeur quad-core. L'écran fait 5 touches.
Nous précisons pour l'émission qu'il va venir, que nous enregistrons à 18h. Normalement, c'est pas du tout notre horaire, donc peut-être que les chroniqueurs vont s'endormir pendant l'émission.
Possible.
Faut les excuser. S'il y a un blanc, ça doit être ça.
Non, mais une console extrêmement puissante avec une très grande résolution, 4 fois la résolution de la première PSP, une connectivité 3G, donc originale, un peu comme un iPhone, donc une connectivité partout. Donc à voir comment ça va se passer. On a encore peu de détails, on ne sait pas encore comment ça va se passer en France, par exemple, etc. On ne connaît pas le prix non plus. On connaît la date de sortie, c'est normalement pour Noël. Donc voilà, c'est assez étrange parce que d'un côté la console, elle est vraiment extrêmement puissante, elle a des capacités, il y a du touchscreen derrière, il y a beaucoup de choses dedans.
Mais ils ont voulu tout, enfin mettre énormément de choses, au niveau hardware, en tout cas au niveau de ce qu'il y a, de ce que ça représente, des interfaces, le multi-touch,
touch sur l'écran et le multitouch derrière.
Exactement. Il y a des caméras aussi.
Devant, derrière.
Il y a les deux pads.
Deux pads analogiques.
Ça, c'est la grosse originalité aussi. Ils sont gargarisés un peu. Ils ont raison, à mon avis. C'est la première fois qu'il y a deux pads analogiques sur une console portable.
On sent quand même qu'ils ont voulu quelque part faire la différence avec la 3DS. Ils ont bien senti que peut-être que la PSP par rapport à la DS était pas assez, il y avait pas un gap, un fossé suffisamment large. Le fossé technique
était là, mais ouais. Disons qu'au niveau variété à offrir.
Et il y avait cette saloperie du MD aussi qui faisait un peu rétro.
Tout à fait. Alors là, on ne sait pas exactement ce que ça va être. On sait que ça va être sur un système de cartes flash, mais on ne sait pas exactement laquelle.
Mais ce qui n'aura rien à voir en termes de temps d'accès. Quand on voit ce que ça donnait l'UMD au début, je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer à Pro Evolution Soccer ou le pire burnout sur PSP, c'était de la science-fiction.
Non, c'est une machine extrêmement puissante, extrêmement intéressante sur le papier, en termes de fonctionnalités, GPS, on ne les a pas tout dit, mais il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, il y a des inconnus, il y a le prix, premier inconnu. On sait qu'il y aura des jeux, on a vu, là, sur le net, il y a une vidéo qui est sortie de jeux first party, les Killzone, etc. Il y a beaucoup de choses intéressantes.
Wipeout, Little Big Planet, qui seront disponibles sur la console.
Sur la console. Donc, il y a quand même des gros titres de lancement. Il y a beaucoup d'intérêt. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que c'est la première fois, à l'annonce officielle d'une console Sony, qu'il y a eu vraiment deux camps. C'est-à-dire que ce qui était intéressant d'analyser, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient pourquoi elle va foirer. Voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà annoncé morné et d'autres qui vraiment pensent qu'au contraire c'est peut-être le salut du jeu sur portable.
Moi a priori je pense qu'il y a toutes ses chances face à la 3DS. Ouais.
Moi je trouve que c'est au moins une vraie évolution de.
C'est autre chose.
C'est une vraie évolution de la PSP et une évolution technique. On reste un peu dans cette course à la technologie. C'est toujours la différence avec Nintendo là-dessus.
Il y a beaucoup de choses prévues en termes de réseaux sociaux aussi, de médias, de jeux sociaux. Ça peut être assez intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours le problème qu'on a avec des consoles très puissantes comme ça. On se dit, quel est l'intérêt de jouer par exemple à un God of War sur un tout petit écran, bon certes il est mobile, alors que c'est des jeux qui sont faits à la base pour des grands écrans et pour des jeux de salon. Donc il y a tout ça qui se bouscule un peu, mais en tout cas c'est intéressant parce qu'on a vraiment une machine là qui se différencie totalement et qui est vraiment extrêmement puissante.
Moi le seul truc c'est qu'on est en train d'arriver sur une espèce de norme d'autonomie parce qu'ils ont
on ne sait pas mais on estime à 5 heures à peu près comme
la 3DS et ça commence à faire une espèce de norme d'autonomie de console portable absolument ridicule quoi. Ça va finir comme la Game Gear à l'époque où il fallait y jouer branché sur le secteur. Alors là, l'intérêt d'être portable, c'est quand même assez limité.
Non, à voir, mais en tout cas, c'est une belle année mine de rien parce qu'on a quand même deux nouvelles arrivées sur le marché des portables.
On a hâte comme la 3DS l'avoir vraiment en main.
Les nouvelles générations Android, iPhone, etc. Aussi.
Joël, c'est des chiffres décevants pour un des bons jeux.
Un des bons jeux, c'est Namco Bandai qui a donc donné ses résultats pour le dernier trimestre 2010. Alors, ils sont contents, Tekken 6 est plutôt pas mal vendu, plus d'un million d'exemplaires, mais un de leurs jeux, ils sont un peu déçus par les résultats de Enslaved. Enslaved, qui s'est vendu donc à 460 000 unités. Alors Enslaved, c'était un jeu un peu d'action qui se déroulait dans un univers post-apocalyptique. C'était assez
très coloré,
c'est pas du tout un Fallout dans l'esprit.
Et moi, personnellement, je crois que c'était pas mal. C'était bien, les personnages étaient bien écrits. Et je suis un peu déçu, quoi, que ce jeu soit pas davantage.
On voit aussi qu'il y a du maintenant un triple A vu les budgets qui peuvent être consacrés. Ont besoin de dépasser le million. Carrément nécessaire.
C'est vrai que 500 000 exemplaires, quand on le dit, c'est pas rien. Mais pour un triple A, c'est pas suffisant. Maintenant, moi, je suis un peu attristé d'un côté, mais je suis pas étonné parce que quand j'y ai joué, j'ai trouvé beaucoup de qualité. Mais il est sorti en même temps que beaucoup d'autres excellents titres. Il y a vraiment eu un problème de timing par rapport au budget moyen du joueur classique.
Et puis ça devient un des soucis de l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui. aujourd'hui, c'est que finalement, il y a les triple, il y a les très très gros blockbusters, parce que maintenant triple A, ça veut presque plus rien dire.
Ouais.
On a d'un côté les très très gros comme les Call of Duty, les titres Rockstar ou un Assassin's
Halo,
Creed Brotherhood ou un Halo, ou les très très gros titres qui culminent. Et après, il y a un espèce de ventre mou du jeu vidéo où ça devient dur de sortir, de faire des très gros.
Oui, parce qu'effectivement, enfin, un Assassin's Creed, il y a une, il y a aussi la nouvelle IP, c'est-à-dire que par exemple, un Assassin's Creed, je vais y arriver, une suite, elle est connue. Il y a déjà une base installée de joueurs, etc. Et quand on sort une suite à très peu de temps, voilà, d'intervalle de ça, c'est, moi, ça m'étonne pas, en fait. Ça,
c'est dommage. Enfin, c'est dommage.
C'est
un éditeur qui prend des risques, ouais, qui crée une nouvelle franchise, une nouvelle licence, et puis
ouais, bon. Mais
la réception, elle est pas, il y a pas de
la réception, la réception a quand même été plutôt bonne, à la fois des joueurs et des critiques. C'était, tout le monde s'accorde à dire que c'était un bon jeu sympathique. Mais le problème, c'est que dans le mois avant, le mois après, il y a eu énormément de jeux de qualité. Voilà.
Ça, sur la fin d'année 2010, on en a déjà parlé, c'était un peu l'embouteillage. Le com des coms de la semaine dernière, donc sur à peu près tous les jeux dont on a parlé, Agent 69 qui dit « Je ne suis pas d'accord sur le fait que Bulletstorm soit un successeur spirituel de Duke Nukem. Les gros points forts de Duke, c'était l'immersion et l'ambiance débile. Bulletstorm mise plus sur l'action et les combos. C'est du Bayonetta Devil May Cry appliqué au FPS. C'est un peu bon. Oui, oui, c'est un jeu de combo. Enfin, c'est présenté comme ça. Puis même le Kill With Style.
On peut même retrouver un peu de Mad World aussi dedans.
Oui, ça a été un des commentaires aussi.
Ah bah voilà.
Mais c'est vrai que nous, on avait catégorisé ça dans les FPS parodiques parce qu'ils avaient un univers un peu délirant, un peu basé sur l'humour.
Bah, en épreuve, là, donc le jeu en fait qui vient de sortir pour la promotion, enfin pour la promotion de Bulletstorm, un jeu qui parodie
la vidéo.
Qui parodie Call of Duty, quoi.
Et une autre qui parodie Halo aussi, si je me trompe pas.
Donc, il joue quand même beaucoup sur l'humour, et là où ils se mettent sur le même terrain que Duke Nukem, beaucoup de gens n'ont pas été très emballés par la démo de Bulletstorm, mais bon.
Mais je pense que c'était pas la meilleure manière de, mais bon, à voir le jeu final.
Seb22 qui revient sur The Dream Machine. The Dream Machine me fait penser à Machinarium à plusieurs égards, une ambiance plutôt tranquille, un point and click jouable en flash sur les navigateurs, il me semble, et un petit buzz qui monte et une présence à l'Independent Games Festival. Moi qui suis un grand fan des point and click, ces dernières années me réjouissent depuis Runaway grâce à Telltale. Mais par contre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Oui, The Dream Machine n'a pas plu à tout le monde. Védémon qui dit après écoute de la critique enjouée de The Dream Machine par Clément, je me suis tout naturellement, tu vois, tu dis du bien d'un jeu et tout naturellement, les gens y jouent.
Bon, il est gratuit, il est gratuit en même temps.
Il est gratuit, c'est vrai. Je me suis tout naturellement jeté dessus et je n'ai pas vraiment accroché. Je me suis forcé 15 minutes et puis basta. Certes, la conception en pâte à modeler le rend visuellement original, mais le point and click reste très basique, le rythme est très lent et les dialogues m'ont semblé particulièrement insipides. Bref, sans moi, mais si vous avez accroché, dites-moi à partir de quand ça devient intéressant, je m'y remettrai peut-être.
C'est exactement, non mais je vais pas dire, c'est pas du tout méchant vis-à-vis de cet auditeur, mais c'est exactement quelqu'un qui aime non, je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que c'est moi ce qui m'a plu dedans aussi, c'est son côté cru du quotidien, etc., en termes d'écriture. Donc c'est pas écrit pour être justement un jeu vidéo qui en met plein la tête et qui voilà, c'est ça plaît pas aux mêmes zones du cerveau, on va dire.
Ouais, mais bon, c'est vrai que on peut ne pas aimer.
Quoi, non, j'ai rien dit. Non. C'est pas du tout méchant, voilà.
Non, c'est une question de goût, de perception d'un jeu en tant que tel. The Dream Machine, en l'occurrence, je crois que tu avais voté pour eux, c'est ça, parce que les votes de l'Independent Game Festival,
tout à fait,
les votes du public,
les votes
sont
du public
ouverts,
sont ouverts.
Vous pouvez aller sur le site de l'IGF et voter pour votre jeu indépendant préféré. En lice, il y a du choix.
Il y a du choix.
Et la plupart sont jouables.
Et la plupart sont jouables. Très très bonne chose à essayer en tout cas. Magica, ça vient de débarquer sur Steam, entre autres, peut-être, je ne sais pas, peut-être ailleurs, mais en tout cas pour moi c'était sur Steam, et c'est 10 euros seulement, alors ça vaut le coup d'essayer. Moi, d'ailleurs je crois que bien que c'est des auditeurs de Silence en Joue qui ont commencé à en parler dans les forums, et je me suis dit, tiens, donc, qu'est-ce que c'est ? Je suis allé voir, et j'ai commencé à jouer, alors Magica, tu y as joué aussi Clément
Tout à fait, vraiment c'était, tout d'un coup je le vois, enfin sur mon site je le vois, je me dis tiens, qu'est-ce qu'il fait là ? Donc je regarde et c'est vrai que j'ai été assez bluffé par ce jeu. Alors après j'y ai pas joué des heures et des heures et des heures et des heures,
non.
Parce que à un moment c'est, voilà, je me suis arrêté, j'expliquerai pourquoi. Mais alors c'est un jeu assez rigolo parce que c'est assez simple. Ça ressemble à un Diablo-like, donc un porte-monstre trésor.
Voilà, un hack and slash.
Un hack and slash. Donc on avance, on se voit d'au-dessus, on avance avec un petit bonhomme et on tue des monstres.
Et voilà. Donc on joue un petit personnage en robe magicien.
Voilà, on joue un apprenti sorcier.
Non, on joue un sorcier en tant que tel.
Au départ, il est apprenti. Le mec qui joue sur les mots. Faut s'en sortir.
Oui, mais il est déjà balèze dès le départ.
Donc on choisit pas de sa classe.
On est magicien. Okay. Point.
T'es ouais. magicien, mais après quand tu joues en équipe, tu peux jouer si tu veux une classe, parce que justement l'intérêt de la chose, c'est que tu me dois mélanger donc 8 n'importe quoi, voilà, 8 écoles de magie, donc qui correspondent à 8 touches sur ton clavier, donc à la main gauche, et avec la main droite t'es sur la souris. Et par exemple, si tu fais juste la roche et que tu la lances, tu balances un petit caillou. Si tu fais deux fois roche, tu balances un gros caillou. Trois fois roche, tu balances un plus gros caillou. Et cinq fois ou quatre fois roche, tu balances une espèce de météore. Mais à côté de ça, tout peut être mélangé. Donc, il y a des éléments qui sont combinables et d'autres qui sont opposés. Donc, si tu mets l'eau et le feu, ça va rien donner, par exemple, en même temps. Par exemple. Par contre, si tu mets une roche et du feu, ça fait, une météorite.
Ça fait une boule de feu.
Boule de feu et explosive.
Alors que le sort avec un seul feu, c'est un lance-flamme. De base.
Donc, à toi de mélanger en fait toutes les capacités qui existent et t'arrives à faire des trucs super intéressants. Par exemple, tu peux être, comme tu parlais de type de classe avant, tu peux t'improviser à un instant T guérisseur parce que tu balances un laser qui soigne.
Ah d'accord.
Tu vois,
l'électricité et la vie et voilà, ça fait ça.
Quelqu'un peut mouiller et si tu joues en équipe, c'est en coop, il y a quelqu'un qui peut mouiller avec de l'eau ses ennemis et l'autre met de l'électricité dessus par exemple. Il y a beaucoup de choses comme ça qui augmentent les dégâts. Donc c'est assez rigolo et personnellement, j'ai moins aimé le côté il y a un côté humoristique assez génial, mais j'ai moins aimé l'aventure en avançant que juste le côté expérimentation des sorts. C'est-à-dire que moi j'ai passé mon temps à expérimenter les sorts tout le temps. Et tu dis, ils ont pensé à ça. Tu peux faire des bombes, tu peux faire des mines, par exemple. Mais des mines de soins ou des mines qui attaquent. Tu peux mélanger. Tu peux faire un rayon laser avec du feu et de l'électricité. Voilà. Donc là, bon, il n'y a pas grand chose qui survit.
En fait, ça demande beaucoup, presque, ça demande de l'imagination pour se dire, qu'est-ce que je peux inventer avec ces huit éléments, qu'est-ce que je peux inventer comme sort? Et en plus, sachant que il y a trois façons différentes de les lancer. Il y a la façon de base où je lance le sort devant moi. Il y a la façon où je lance le sort sur moi, ce qui est utile pour se guérir ou pour se mettre un bouclier.
Un bouclier, par exemple.
Et il y a le côté, je lance le sort autour de moi, en fait, d'une manière rayonnée
autour de soi.
Et ça fait, moi, c'est pas facile. C'est vraiment, c'est un jeu tout mignon. C'est assez rigolo. D'ailleurs, il y a une espèce de au début, un jeu avec ce graphisme-là, on joue un tout petit bonhomme, un peu un sorte de hobbit magicien qui se balade un peu. C'est là le côté un peu apprenti, ça fait très apprenti parce qu'il est tout petit, on voit pas sa tête.
T'as l'impression d'un peu un Mickey dans Fantasia, mais sans voir sa tête.
Ouais.
D'accord.
Les graphismes sont plutôt mignons. Enfin, c'est pas du tout terrifiant. L'ambiance est colorée et tout ça.
C'est rigolo.
Et par contre, c'est dur. C'est dur parce que pour lancer ses sorts d'une manière efficace, on a les 8 touches du clavier à la main gauche et il faut combiner
assez vite à
chaque élément fois. On appelle la pierre, on appelle le feu et on lance avec la souris et c'est pas facile parce que quand t'as 3 ennemis qui t'arrivent sur la gueule, moi j'y ai pas encore joué en multi. Alors en multi c'est le même sauf que on peut jouer à 4 en coop en fait.
Il y a des trucs, c'est par exemple tu peux faire, moi au début j'avais mis un mur de, enfin donc t'as un élément qui est le bouclier, tu peux le mettre sur toi comme ça t'as une espèce de bouclier pour te protéger. Moi je l'avais mis devant moi Comme ça, les gens qui me tiraient dessus, ça m'arrivait pas dessus. Et de les faire le tour. Donc ça me donnait du temps, par exemple. Voilà, il y a plein de petits trucs à trouver. Parfois, tu trouves aussi un sort qui est bien puissant en zone. Enfin, mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais moi, ce que je trouve le plus rigolo, c'est même quand t'es tout seul, c'est quand tu meurs comme un con parce que t'as pas fait exprès. Par exemple, moi, j'avais fait un bouclier tout autour de moi. Donc j'étais un peu dans une cloche. Là, j'ai balancé un rayon laser, il a rebondi sur tous les trucs. et ouais, je suis mort. Mais c'est ça aussi qui fait, à mon avis, le sel du jeu. Tu fais du soin, tu veux le mettre sur toi, tu le mets pas sur toi, tu le mets sur l'ennemi. Tu fais merde. Tu vois,
ah oui, c'est vraiment un apprenti, quoi.
Et vraiment, en fait, très, très tôt, par exemple, tu apprends un sort hyper balèze, c'est la pluie de météores, quand même. C'est le trip. Parce que ce qui est génial, enfin, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça désamorce énormément de concepts de base du hack and slash jeu de rôle de base.
Voilà, c'est-à-dire tout de suite.
T'as pas d'expérience. T'as pas de matériel, t'as pas de tenue, d'armure, de machin.
T'as pas de quête secondaire.
T'as pas de quête secondaire, t'as que dalle. T'as tout dès le départ.
Et est-ce que c'est un peu scénarisé?
Enfin, un petit peu.
Vaguement.
Et en fait, très vite, tu apprends la pluie de météores. Alors ça, c'est balèze. Il faut mettre feu, pierre, air,
pierre, feu.
C'est jusqu'à 5 éléments. Et en fait, donc, tu galères un petit peu avec tes touches à faire ça. Et arrivé au moment, j'ai le sort qui est prêt, j'appuie sur le bouton central, donc sur la molette.
Ça tombe sur...
Ce qui fait que le sort me tombe sur la gueule. Et là, évidemment, voilà. c'est un peu désespérant. En fait.
Après, il y a plein de trucs rigolos. Si tu veux explorer un peu le monde, tu vois, alors, les magiciens ne savent pas nager. C'est une règle du jeu. Et donc, quand t'as de l'eau, tu mets le sort de froid dessus, ça fait de la glace, tu passes dessus. Enfin, il y a plein de, tu mélanges, en fait.
Ouais.
Chaque fois que t'as une idée, c'est un peu le scribble note de la physique. Scribble note, t'écrivais des choses et ça apparaissait.
De la magie.
De la magie, ouais. Excusez-moi, j'ai des concepts assez proches, pour moi. Mais, c'est par exemple, c'est assez rigolo. Tu sais que si tu fais ça, c'est logique, il va prendre feu. Si tu veux, voilà, tu mets l'eau dessus.
Et un point particulier quand même. Alors c'est dur, hein. C'est
buggé encore.
C'est buggé et mais c'est très très drôle. Les dialogues sont extrêmement drôles. On va pas citer des passages. Le premier passage, ça m'a fait assez hurler de rire. C'est on croise un personnage avec le point d'exclamation jaune au-dessus de la tête. C'est dans tous les jeux de rôle, c'est quelqu'un qui va me donner une quête.
C'est classique.
Et là, elle dit oui, il y a des rats dans ma cave. Il faudrait absolument que vous arriviez à m'en débarrasser. À ce moment-là, arrivent des gobelins, mais qui n'ont rien à voir avec la quête. On marave les gobelins et on revient la voir. Oh bah finalement, les rats, par rapport à ce qui vient de m'arriver, c'est pas très très important. Et puis ce point d'exclamation, il va falloir bien que je m'en débarrasse maintenant.
Il y a beaucoup de second degré effectivement sur les codes jeux vidéo. Non, mais c'est vraiment pas mal. Maintenant, le petit c'était assez buggé. Ils sont encore, ils sont en train de le débugger. Mais c'est vrai que moi, je me suis plus éclaté sur le côté création de sorts, expérimentation plutôt que d'avancer dans l'aventure. Même si moi j'ai joué à deux, c'est assez rigolo, quoi.
Magica, donc, à télécharger pour 10€ seulement sur Steam. Bah, il faut aimer, ce genre.
Tout à fait.
Voilà. On vous le conseille. Et puis, vous pouvez jouer ensemble et vous retrouver sur le groupe Silence on joue sur Steam d'ailleurs,
Comme
ça,
ouais.
Les auditeurs peuvent jouer ensemble. C'est formidable. Elle est belle, la vie. Little Big Planet 2, ils reviennent, les Sackboy. Donc c'est comme ça que ça s'appelle.
Les Sackboy et les Sackgirls.
Donc ils reviennent dans cet univers très créatif de Sony. 2 millions, je crois, c'est ce qu'ils disent, de niveaux créés pour le premier.
C'est ça.
C'est énorme. C'est un très très gros succès communautaire. C'était un des paris au moment de la sortie du premier. Je me rappelle, on en avait parlé. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que les gens vont s'approprier les Little Big Planet? Ça a été le cas. Ça a été un succès. Beaucoup de créations, beaucoup de choses très originales qui ont été faites. Et là, le 2 arrive avec encore plus de liberté. On peut créer encore plus de choses. Joël.
Effectivement, un jeu qui avait été le premier opus avait été vendu pour son aspect comme ça très créatif où on pouvait faire ses propres niveaux. Le 2 n'échappe pas à la règle, quoi. C'est-à-dire qu'il on peut, il y a un mode éditeur de niveau qui permet vraiment de créer un petit peu tout ce qu'on veut, de créer aussi des mini-films. Alors ça, c'est vraiment l'aspect très chouette. Il y a les niveaux du premier.
J'ai cru avoir des retours comme quoi il était assez compliqué à prendre en main.
Non, effectivement, il y a ça. Il y a un didacticiel de 52 leçons. Quoi. Il faut quand même se les fader. Donc c'est pas c'est un peu
c'est
lourd.
Pour ceux qui veulent vraiment,
c'est un peu lourd. Mais cela dit, les leçons sont plutôt faciles, agréables. Donc c'est pas non plus un challenge. Quoi. Et les joueurs ont vraiment. Alors on peut jouer à la fois donc à tous ces niveaux qui ont été créés par les joueurs, y compris les niveaux du premier qui ont été rapatriés entre guillemets. Et aussi au mode histoire. Alors donc Little Big Planet 2, c'est un jeu de plateforme, voilà, où on balade son petit Sackboy qu'on personnalise, ça c'est super.
Parce que voilà, il y a un jeu solo qui est déjà, enfin il y a une partie solo qui est déjà créée en fait par Sony.
Et auquel j'ai beaucoup plus en fait accroché que pour le premier, parce que les niveaux sont beaucoup plus, peut-être j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus courts, qu'ils sont beaucoup plus inventifs. Et aussi, il y a des objets qu'il me semble qu'il n'y avait pas dans le premier, c'est-à-dire des grappins pour se suspendre aux plateformes, il y a l'espèce de trampoline, et les niveaux sont vraiment très drôles, quoi. C'est vraiment un jeu où je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, quoi, en fait. Beaucoup de choses très charmantes qui viennent. Il y a aussi beaucoup d'humour. Il y a certains niveaux qui sont, qui reprennent un peu le côté, qui font des clins d'œil au shoot 'em up, au vieux shoot 'em up, parce qu'il y a des passages comme ça où on est dans un vaisseau, on doit tirer sur ses adversaires. Que dire aussi, c'est la bande originale. Ah, ça, je voulais en parler. Elle est vraiment magnifique. Je trouve qu'ils ont vraiment très bien choisi les morceaux qui accompagnent.
Alors cette fois-ci, originalité, on peut aussi, avec l'interface de Little Big Planet 2, créer ses propres morceaux de musique pour accompagner les niveaux qu'on crée.
C'est une fonctionnalité que je n'ai pas testée. Mais...
Non, mais on a à Libération un grand spécialiste qui crée des niveaux et qui a complètement plongé dans Little Big Planet.
Ouais.
Et il nous racontait ça que là, celui-là est beaucoup beaucoup plus. En fait, on peut inventer des systèmes de jeu aussi. C'est-à-dire que les mécaniques de gameplay sont configurables beaucoup plus que dans le premier.
On peut vraiment créer des modes.
On peut créer effectivement un mode shoot 'em up. On crée une espèce de, ou sinon juste simplement de l'exploration.
Est-ce qu'on peut aimer, parce que moi celui-là j'ai pas eu tout joué. Est-ce qu'on peut aimer ce jeu si on n'a pas du tout la fibre créatrice, mais juste pour la partie solo et en attendant les cartes
complètement,
de la communauté,
quoi, vraiment la partie solo est vraiment,
c'est l'intérêt d'ailleurs, c'est l'intérêt d'avoir tous ces créatifs, c'est que une fois en tant que spectateur,
donc le plaisir je veux dire, est pas genre 50% dans la création et 50% dans le jeu.
Non, la partie solo se suffit vraiment à elle-même. Bon, après ce serait vraiment dommage de pas aller faire un tour dans les millions de niveaux qu'on crée. Les joueurs, certains sont très, c'est très réussi, donc ce serait dommage.
Et ils ont trouvé des manières intéressantes de proposer les meilleures missions.
C'est communautaire, et donc les niveaux sont notés. On peut,
voilà,
on peut savoir facilement
les meilleurs
le
niveaux.
Le côté communautaire, voilà, ouais. on peut liker
un niveau,
on peut laisser des commentaires, on peut aussi taguer les niveaux, c'est-à-dire dire voilà, je trouve que ce niveau est effrayant, ou au contraire,
difficile, c'est la course, c'est
dire aussi, il est multi joueurs, parce que quasiment tous les niveaux, même dans la partie solo, sont multijoueurs. Ça, c'est vraiment à faire, quoi.
C'était le cas du premier.
Et là, c'est vraiment super drôle, quoi. Il y a des mini-jeux, en fait. Il y a des niveaux qui se présentent comme des mini-jeux. Il y a des espèces de courses à dos de chenilles.
C'est vrai que moi, à la fois sur PC et sur console, un des types de jeux dont je suis toujours en manque, moi, c'est les jeux coop. J'adore les jeux où on peut jouer vraiment en coop. Et donc ça, c'est vraiment, tu le conseilles dans la catégorie des jeux coop.
Ah ouais, complètement. Parce qu'il y a pas, en plus, il y a pas vraiment un gros, il y a pas un grand challenge, quoi. On fait vraiment, genre, les courses à dos de lapin, une espèce de lapin à poil angora. Tu te casses la gueule dans tous les sens, c'est pas toujours super maniable, mais c'est rigolo, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie du fun de faire des chutes, de s'envoyer dans le décor. Ça fait vraiment partie du plaisir, quoi. Donc c'est un jeu que je recommande à faire en coopération.
Mais tu vois, je vous comptais pas spécialement y jouer et tu m'en as donné envie.
Ah ouais, vraiment.
Comme quoi, tu vois.
Moi, ce qui me donne envie vraiment parce que je trouvais que Little Big Planet 1 était très intéressant au niveau de l'ouverture qu'il donnait à la création. Et moi, ce qui m'intéresse là, plus dans ce deuxième, qui a une physique, d'après ce que j'ai vu, en tout cas, plus fine, enfin, le gameplay
plus fin
est un peu moins approximatif que dans le premier, parce que c'était un peu pénible à ce niveau-là.
Mmh. Ouais, c'est,
et,
oui,
allié à ça, des outils de création beaucoup plus évolués que lors du premier, moi, ça me donne, bon, moi, je considère qu'une fois que tu donnes des outils à la communauté, on a vu ce que ça donnait sur des choses comme Trackmania, c'était toujours formidable, enfin, les résultats sont souvent très très étonnants.
Ou chez Valve aussi, hein.
Ou chez Valve, mais c'est plus compliqué chez Valve.
Non, mais il y a un niveau que j'ai joué qui est vraiment super rigolo, où il y a quelqu'un qui a créé un espèce de monde inspiré de Batman, où je crois qu'on incarne un mini Sackboy Batman qui part à la poursuite du Joker, qui a lancé des obstacles sur son chemin. C'est vraiment très bien fait, quoi. Et j'imagine que la personne qui a fait ça a pris vraiment des heures pour le faire, l'a vraiment chiadé, quoi. Et c'est vraiment étonnant, quoi, de faire un tour de regarder un petit peu les niveaux.
Là-dessus, ils ont réussi le pari communautaire, en tout cas.
Vraiment.
Little Big Planet 2 pour l'instant sur PS3, sur PSP2 NGP peut-être un jour, hein, qui sait. On va accueillir maintenant, comme chaque semaine, Monsieur Fall, oui, lui-même, de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine est tombée la liste des 10 finalistes pour l'As d'Or, le jeu de l'année. Et oui, à la fin du mois de février, il y aura le Festival International des Jeux de Société de Cannes. C'est exactement comme le Festival du Film, mais avec des plateaux, des cubes en bois et autres cartes à l'intérieur. Et durant ce festival, forcément, sera annoncé le jeu de l'année, comme la Palme d'Or, l'As d'Or, et se récompense un des meilleurs jeux sortis cette année. Alors, cette liste comprend une dizaine de jeux, allant du jeu le plus sophistiqué pour joueurs avertis et aguerris, à des jeux extrêmement simples pour les enfants, en passant par quelques jeux tout public pour personnes qui voudraient découvrir la chose dite moderne. Et force est de constater, mon cher Erwan, que durant les semaines qui se sont écoulées, je vous ai parlé de certains des jeux présents dans cette liste, comme Seven Wonders ou 3, mais d'autres n'ont pas été évoqués pour la simple raison qu'ils ne sont pas encore dans le commerce. Mais j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir en essayer quelques-uns. C'est le cas de Jam. Jam est un jeu signé William Attia, édité par les éditions Asmodée, un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans. William Attia a décidé de renouveler un classique, le petit bac, le baccalauréat. Mon cher Erwan, vous y avez forcément joué. C'est ce jeu où vous donnez une lettre et vous allez devoir trouver un métier, un animal, une fleur, etc. etc. Là, une boîte de Jam contient des dés et des cartes avec des thèmes. Vous allez jeter les dés au centre de la table. L'un des dés contenant un chiffre va vous indiquer quel thème vous allez pratiquer pendant la manche. Et les autres dés vont vous indiquer des tonnes de lettres. Là où c'est très très fun, c'est que grâce à ce système de lettres, vous allez avoir plusieurs choix cornéliens. C'est-à-dire que tous les joueurs vont jouer en même temps autour de la table. Chacun va hurler des mots en essayant de marquer le maximum de points. Puisque vous allez marquer autant de points que de dés lettres que vous utilisez. L'astuce, c'est que si vous êtes 5 joueurs par exemple, seuls les 3 premiers faisant des propositions vont marquer des points et les 2 autres ne marqueront rien. Donc, vous allez être un peu entre le choix de balancer le mot le plus vite possible sans calculer le nombre de points et ramasser immédiatement 1 ou 2 points, ou attendre la dernière limite pour trouver un mot contenant un maximum de lettres pour engranger le maximum de points. Ensuite, il y a une ruse, c'est que le dé couleur qui vous indique le dé pour commencer a parfois une face noire. Et là, il va falloir trouver un truc, un nom dans le thème en cours, ne contenant aucune des lettres présentes au centre de la table. Donc, si vous n'êtes pas très attentif, vous allez avoir tendance à gueuler un nom instantanément et là, vous vous gourrez, donc forcément, on va vous rendre les points, etc. Il y a des systèmes de points négatifs. Bref, Jam est un jeu qui renouvelle le baccalauréat de manière extrêmement fun, rapide, efficace. Ça marche, ça ne m'étonne pas qu'il soit dans cette liste des meilleurs jeux de l'année. C'est un jeu très grand public que vous allez trouver aux alentours de 10 ou 15 euros. Mon cher Erwan, j'ai eu la bouche un peu empotée, le nez un peu pris, car je suis un peu malade, mais je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine, mon cher Erwan.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall. J'espère vous allez vous guérir.
Ce qui est marrant, c'est que moi, c'est Monsieur Fall qui m'a redonné goût aux jeux de société. Et là, je voulais acheter Timeline, tu sais, le jeu dont tu m'as parlé, où tu dois déplacer les trucs. Et en fait, il a tellement eu de succès. Alors ça, j'ai appris ça, c'est quand même bizarre dans les jeux de société. C'est que là, du coup, il faut attendre le réapprovisionnement et c'est pas avant mai. Donc voilà,
il faut qu'il le refasse, refabrique.
Mais c'est marrant, en jeu t'as
quand Monsieur Fall fait sa chronique dans Silence on joue, il faut se ruer dessus le lendemain, 2 jours plus tard, trop tard.
Je profiterai en fait maintenant de
maintenant tu l'as entendu, Silence on joue sera publié demain, donc tu peux y aller.
Je vais y aller.
La minute culturelle. Alors un petit mot quand même. Je rappelle pas assez souvent le mail minuteculturelle@gmail.com pour envoyer vos questions, parce que là il y a deux auditeurs très attentifs qui sont VNZ et Marmotte19. Ça va faire au moins 4 émissions que je fais qu'avec des questions de ces deux-là.
Ce sont nos bourreaux, donc.
Voilà, ce sont vos bourreaux.
Nos bureaux aussi.
Donc, on commence par VNZ qui demande: quel est le point commun entre Cooking Mama, Super Mario Bros et Super Meat Boy? Il y en a plein, mais là c'est un point commun
particulier. La pizza, attends, qu'est-ce qu'il y a? Meat Boy,
vous êtes pas loin.
La viande, la cuisine, enfin.
La cuisine, ouais.
Quel Mario?
Super Mario Bros.
Non.
Et donc en fait c'est qu'ils ont tous été parodiés par le groupe de défense de droits des animaux, PETA, avec des jeux flash nommés Cooking Mama, Mama Kills Animal, Super Chick Sister 1 et 2 et Super Tofu Boy. Effroyablement mauvais. Et ne dis rien parce que tu risques de rater un point autrement. Ouais. Quelle a été la réaction des créateurs de Super Meat Boy?
Ils ont fait un tweet clash qui était assez violent. Enfin, ils ont fait un blog, ils ont répondu. Et j'avais lu ça, putain, en plus je l'ai lu. C'était extrêmement drôle. Ils ont créé du coup aussi de la tension sur eux, parce qu'ils ont mis, ils ont fait une blague. Voilà, ils ont fait une blague.
Ils
ont fait une blague sur Twitter où ils disaient combien il faut de personnes de PETA pour changer, je sais plus si c'était le monde ou une ampoule, et c'était
c'est pas du tout ça en fait.
Ah merde. tu me laisses sortir les rames, tu me regardes m'enfoncer doucement.
Exactement.
Non, mais en gros il disait voilà, personne, puisque PETA n'a jamais rien changé en fait.
Réaction, ils ont inclus dans Super Meat Boy Super Tofu Boy
et qui ne saute pas du tout,
grâce à son régime végétarien, il ne peut pas courir, à peine sauter, il n'a strictement aucun pouvoir spécial, et donc la plupart des niveaux sont impossibles à terminer avec lui en fait. Voilà. Et alors, une question façon Julien Lepers. Donc vous êtes prêts? C'est donc Marmotte 19. Donc top.
Je prends la main. Non mais il continue.
Ok. On n'a pas le 4-3-2-1, c'est con. Jeu de baston du milieu des années 90. Je suis sorti sur de nombreux supports, console, PC et arcade. Alors que mes graphismes étaient unanimement salués par la presse et les joueurs, j'ai eu l'honneur de voir Brian May, le guitariste de Queen, participer à ma bande son. À l'époque, on avait du mal à imaginer que mes cinématiques en full motion vidéo arrivaient à tenir sur des cartouches et des disquettes. Malheureusement, doté d'animations super ultra raides et d'un panel de coups ultra limité, sans parler de la jouabilité aux fraises et du flagrant déséquilibre des robots jouables, je suis vite devenu la risée des jeux de baston, d'autant plus que je me suis fait descendre par la presse. Ouais. Ce qui n'aura pas empêché, attention, c'est presque fini, ce qui n'aura pas empêché les développeurs de sortir une suite sous-titrée Résurrection. Il faut dire que j'ai eu suffisamment de succès pour être rentable.
Attends, c'est sur Super Nintendo, c'est un jeu culte, il est devenu culte. C'est l'équivalent d'un jeu. Il me regarde, je suis en train d'enfoncer encore. Attends, je vais le retrouver. J'ai eu un jeu de combat, mais c'est ce qui est à chier. Attends, c'est un robot qui a des yeux comme ça là. Qui ressemble un peu à XOR, mais en pire. Attends.
Des yeux comment?
Tu sais, un peu d'insectes.
Je ne sais pas, j'avoue que je n'y ai pas joué.
Attends. Ah merde. J'aime pas.
Mais
c'est le nanar parfait quand on parle de jeux vidéo, comme on parle, il y a des nanars dans le cinéma. Et ça, c'est vraiment le nanar du jeu vidéo.
Je suis.
Ah, putain, ça va pas. Attends, Ah merde. Ah, mais je l'ai eu sur Super Nintendo.
Je l'ai eu sur Super Nintendo. Rise of the Robots.
Ah non, c'est pas celui-là. Je pensais. mais voilà. Je vois Rise of the Robots aussi, mais c'est pas du tout celui à lequel je pensais.
C'est bien.
Retrouve le nom de... Mais je suis sûr que là, d'après les indices que j'ai donnés, les auditeurs ont déjà trouvé le jeu auquel moi je faisais référence.
Vous pouvez les laisser en commentaire. C'est la minute culturelle inversée. Pas de son, parce que j'ai pas trouvé de son de ce dont tu vas parler, Clément. Mais donc StarCraft 2, eh bien il y a trois petits modes qui sont sortis.
Ouais,
en fait,
parce que là on vient de parler de Little Big Planet 2 et donc de la possibilité pour les joueurs de créer leur niveau. Et c'est rare sur console, on va dire. Enfin, le mode sur PC, c'est-à-dire des choses développées soit par des professionnels, soit par des amateurs, qui modifient totalement, d'où le nom mode, qui modifient totalement le gameplay, ça existe quasiment que sur PC.
Et le plus connu est sorti en 98 de mémoire, ça s'appelait Counter-Strike.
Counter-Strike, voilà, qui était une modification de Half-Life. Et donc, il y a souvent quand un jeu sort et qu'il laisse un peu son code ouvert, il y a beaucoup de choses qui après sont modifiées. Par exemple, il y a des jeux de guerre spatiale où tout a été modifié pour faire un truc Star Wars, qui est plus ou moins légal évidemment par rapport à Star Wars.
Il y avait surtout Battlefield 1942 avec un mode Star Wars absolument génial.
Par exemple, il y a beaucoup de modes. Donc c'est des choses qui sont créées soit par des développeurs professionnels, soit par des amateurs. Et là, en l'occurrence, pour StarCraft 2, donc un jeu de stratégie en temps réel, Blizzard a créé 3 petits modes, donc qui sont basés sur le moteur de StarCraft 2, mais qui offrent des jeux et des expériences de jeu totalement différentes. On va commencer par Star Jewel, qui c'est un peu un Bijeweled, je sais pas comment on le prononce.
Bijeweled.
Mais en fait, c'est un Star Jewel. Donc c'est exactement, donc à droite de l'écran, on a exactement un Bijeweled. Donc le but, c'est de le plus rapidement possible faire aligner 3 gemmes, donc c'est un puzzle game. On joue en équipe 2 contre 2. Donc ça, c'est la partie droite. Donc ça, c'est moi je reproche à 2 contre 2, parce que si quand on a quelqu'un de soit très bon, soit très nul, c'est un peu chiant. Mais en fait, donc il y a une partie stratégie. Tout ça, ça nous donne des points d'énergie qu'on dépense après en unité StarCraft. En dessous, on achète justement un soldat, on achète des unités StarCraft qui ont chacun des capacités spécifiques classiques au jeu. Enfin, un tank, un truc aérien, etc. Par défaut, quand on fait une gemme, donc dans la partie gauche, c'est un peu un Dota. Il y a nos unités qui avancent face aux unités de l'adversaire.
Mais on peut pas les contrôler.
Ah, oui, d'accord. C'est que dès qu'on fait des points dans la partie droite en Bejeweled, ça envoie des Marines. Donc ça envoie des Marines. Et quand on a des points, on décide de quelles unités on va mettre pour contrer celle de l'autre. Donc ce qui est marrant, c'est que t'as une partie qui est effectivement très puzzle game sur la droite, mais il y a quand même une partie stratégie sur la gauche. Parce que si l'adversaire nous envoie des tanks, nous, à ce moment-là, on lui envoie des hélicoptères qui peuvent détruire les tanks sans se faire attaquer, etc., etc. Donc, moi, c'est un jeu auquel je joue pas mal, en fait, du coup, qui m'a vraiment plu. Donc, c'est un jeu de puzzle game avec un petit côté stratégique. Donc, vraiment, pour moi, c'est un des plus réussis. Après, il y a un autre jeu. Donc là, c'est vraiment... Ils ont moins modifié le jeu. C'est un jeu en coop, en fait. C'est une mission du jeu original que tu joues en coop. C'est que la journée, tu dois défendre ta base, et la nuit, tu dois aller attaquer les ennemis. Tu récupères des points, et ça te débloque des unités pour te défendre mieux ta base. Et donc là, il faut vraiment défendre jusqu'au bout. Il faut jouer bien en coopératif. Il faut se développer. C'est assez intéressant. Mais donc là, c'est vraiment un jeu de stratégie en temps réel.
C'est le Left to Die, c'est ça?
Ça, c'est le Left to Die, ouais. Donc référence à Left 4 Dead.
C'est des jeux qui s'apprécient encore. J'imagine qu'ils s'apprécient encore plus quand on connaît très bien StarCraft 2.
Celui-là, oui. Le deuxième, oui, clairement, parce que c'est vraiment du gameplay de StarCraft 2. On joue Terran. On joue vraiment du StarCraft 2, mais en défense, attaque, c'est assez rigolo. Et le premier, pas tant que ça, parce que le premier, quand tu joues pas à StarCraft 2, tu comprends.
Oui,
et puis après, très rapidement, tu vois que telle unité, elle est plus forte contre telle autre, et voilà. Mais globalement, si tu es excellent à Bijoule, tu vas l'exploser, l'adversaire. Donc,
c'est intéressant.
Du coup, je vais peut-être me mettre à StarCraft 2, parce que je suis hyper bon. Ouais.
Voilà. Hein, mais c'est...
Vous le saviez peut-être pas, mais je suis hyper bon à Bijoule.
Voilà. Donc, voilà, il y a...
Ouais, bon, ça a aucun intérêt, mais bref, non, je voulais le dire.
Donc, il y a deux jeux. Donc, un premier jeu, on l'a dit, puzzle, machin. Le deuxième mode, qui est un mode, bon, quand je dis mode, on clique, ça se télécharge en une seconde. Hein. Ouais. On n'a rien à faire. Hein. C'est vraiment tout intégré. Et le troisième mode qui est assez original, qui s'appelle Ayur Chef. C'est un peu, donc Ayur, c'est la planète des Protoss. Et donc tu es un petit Protoss. Et en fait, ça correspond à Top Chef. Voilà, à peu près. Voilà, c'est un jeu Top Chef, par exemple, l'émission.
Ah non.
Si. Alors, ouais. Donc, en fait, c'est assez rigolo. Donc t'as 5 minutes à peu près pour faire tes repas. Ce qui est marrant, c'est qu'on te dit, il y a 3 plats. Le premier plat est à base de, par exemple, de poire. Et donc tout de suite, toi, tu vois les 4 recettes que tu peux faire avec de la poire. Est-ce qu'il faut avec, genre du poire, du machin, etc. Sur la carte globale, tu vois quel endroit il y a de la poire, quel endroit il y a du machin, etc. Donc toi, comme dans StarCraft 2, tu cours à l'endroit, tu récupères les choses. tu vas après les donner, tu as juste à les apporter en fait et à les ramener. C'est pas vraiment un truc où tu fais à bouffer. Tu ramènes les éléments, ça donne des points évidemment, mais avec ces points-là, si ça peut débloquer des capacités pour empêcher l'adversaire d'avancer, etc.
Il y a du tofu, non ou pas?
Il doit y avoir, il y a Tofu Boy probablement. Non, mais il y a pas mal de trucs, c'est assez rigolo. Moi, j'ai trouvé un peu longuet, c'est-à-dire que j'ai trouvé que ce gameplay était assez rigolo, mais
le principe est plutôt très original.
Le principe est très original et assez rigolo. Ouais. J'ai trouvé ça un peu longuet sur 5 trucs. Et comme il n'y a pas vraiment de didacticiel, tu dois comprendre au début. Moi, j'ai mis, c'est mis à comprendre qu'en fait, sur la carte, on voyait à l'endroit où étaient quand même les pouvoirs et les machins, parce que moi, je tournais, mais on était 2-3 à tourner comme ça, comme des cons. Et en fait, je pense que c'est un jeu qui est excellent quand tu joues avec des potes, celui-là.
Ouais.
C'est vraiment un jeu. Petit coup de crasse, on
le but, c'est quoi? C'est donc d'aller chercher le plus vite possible les ingrédients.
Les ingrédients, mais tu peux porter que des ingrédients pour faire une recette. Voire à peine plus. Donc,
alors c'est quoi les recettes?
C'est toi de choisir.
Les recettes.
C'est des recettes qui existent évidemment pas, hein. Enfin, c'est des choses un peu inventées. Mais, il y a un humour. On sent que il y a un petit background qui a été créé. C'est assez rigolo. Donc, moi, ce que j'ai aimé, c'est que, et en plus, c'est gratuit. C'est fourni par le développeur. C'est 3 expériences de jeu totalement différentes. Qu'on peut faire avec StarCraft 2 et qui sont gratuites.
Ma question, mais je sais pas si t'as la réponse, mais normalement les mods, donc ils utilisent le dev kit fourni avec le jeu, enfin qui est StarCraft 2, il y a un dev kit, il y a un.
En fait, je sais pas exactement parce que j'ai vu quelques trucs quand même qui étaient faits déjà par des. À part ces 3 là qu'on trouve beaucoup. Où c'est très facile d'entrer, c'est automatisé, tout est automatisé en un clic, on joue, voilà. Il existe d'autres modes de tower defense, de machin, etc. Il existe d'autres.
Mais créés par les joueurs.
Créés par les joueurs.
Et donc, dériver une carte ou un truc comme ça, comme à la limite presque comme le Top Chef StarCraft, inventer un système à partir de Bejeweled, ça me semble un peu compliqué.
Eux qui l'ont fait. Donc peut-être que c'est de la publicité. Enfin, c'est évidemment la publicité aussi pour dire regardez ce qu'on peut faire avec notre jeu. Blizzard, on les connaît, ils sont assez ouverts là-dessus. Hein. Dota, l'excellent Dota. C'était créé sur Warcraft par des joueurs. Donc ils sont assez ouverts au mode, etc. Et là, c'est l'occasion de montrer que eux, ils te montrent ce qui est possible de faire avec des jeux qui sont déjà qui se tiennent.
C'est aussi un moyen d'entretenir un peu la relation avec la communauté. Quoi, leur dire voilà,
belle initiative.
Ouais. Et donc, des jeux sympathiques, quoi.
Ressortez votre StarCraft 2. Non, en fait, si vous jouez à StarCraft 2,
probablement.
Vous continuez encore à y jouer. C'est fini, hein, cette semaine, avec le jeu vidéo et la question rituelle. Vous n'y échappez pas. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément?
Je suis allé au cinéma et j'ai vu,
Les
Chemins de la Liberté, de Peter Weir. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un film qui a le label, le logo inspiré d'une histoire vraie. Voilà, donc tout de suite, ça crée l'ambiance. Et en fait, c'est l'histoire, donc c'est tiré d'une histoire vraie, à mon avis, tout n'est pas exactement fidèle à la réalité, mais c'est tiré d'une histoire vraie, de prisonniers, soit politiques, soit de droit commun, qui ont été envoyés en Sibérie, dans un goulag. Donc c'est vraiment l'histoire d'un goulag, au départ. Et les prisonniers vont s'en échapper. Il y a un groupe de prisonniers qui a décidé de s'en échapper. Et le s'échapper du camp de prisonniers, c'est vraiment le premier de leur problème, parce que comme ils le disent très bien au début du film, sans spoiler, c'est que la prison d'un goulag, c'est à la fois effectivement les gardes et les barbelés, mais c'est la nature. C'est que donc là, ils vont traverser.
Ah, mais c'est comme dans Call of Duty Black Ops.
Et donc là, ils vont traverser, ils vont traverser 10 000 kilomètres, hein, le froid, le blizzard, le désert brûlant de Gobi, et blablabla. Bon, je passe les détails. Mais voilà, c'est une épopée. Donc, il se passe pas grand chose. On suit juste l'épopée avec des morts, avec des machins, effectivement. Mais, 2 excellents acteurs dedans. Ed Harris, qu'on a vu, machin, et Colin Farrell, qui est vraiment bluffant. Mais bon, il y a des très beaux paysages. Donc, moi, pour le coup, je conseille vraiment de le voir sur grand écran. Pour ça. Voilà.
Joël.
Moi, je suis en train de lire le bouquin d'un de mes auteurs de SF favoris. Il s'agit de Alastair Reynolds. qui est un auteur de science-fiction britannique, qui a déjà écrit un cycle vraiment très bon qui s'appelle Le cycle des inhibiteurs. Et là, en fait, son roman qui s'appelle, qui s'appelle Pushing Ice.
Et il est traduit en français?
Alors, il sort en français dans 2 semaines sous le titre Janus.
Tellement hype.
Voilà. Et en fait, c'est l'histoire, ça se passe dans le futur, c'est l'histoire d'un vaisseau, en fait, d'un vaisseau spatial à bord duquel il y a des ingénieurs, en fait, qui sont chargés de récolter de la glace près des planètes, et en fait, qui se trouvent au contact près de Saturne, au contact d'une mystérieuse météorite qui se trouve, en fait, être un vaisseau spatial. Donc, rencontre avec, donc premier contact avec des intelligences extraterrestres. Et, Lester Reynolds, c'est vraiment un très bon auteur, quoi, je recommande.
Cool. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai enfin vu The Ghostwriter de Polanski, que j'ai trouvé, je sais pas, j'y allais à reculons, je ne sais pas pourquoi, et j'ai trouvé ça assez rigolo, en fait.
Il est encore dans ma liste des films à voir, moi.
Vraiment pas mal, bien joué, assez entraînant au niveau du scénario.
Nommé, au César, nominé, je crois.
J'en sais absolument rien, franchement, voilà, j'ai bien aimé. Par ailleurs, et je vais encore en reparler parce que ça doit être la 14e fois, et là, je vais enfin finir définitivement le cycle d'Ardeville, parce que je commençais la toute fin du cycle écrit par Brubaker, et voilà, c'est toujours aussi bien, c'est formidable, lisez d'Ardeville, Bendis, Brubaker, tout ça, c'est vraiment génial. Voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.